le magazine des Nations Unies.
Bonjour, voici les titres de ce magazine des Nations Unies. La journée de l'enfant en 2022, c'était dimanche dernier le 20 novembre. Chaque année, l'événement est célébré à cette date dans le monde entier. En RDC, la MONUSCO et l'UNICEF ont organisé des activités à Kinshasa. C'est notamment une conférence de partage d'expériences avec les élèves du collège Saint-Raphaël. Cela en vue de susciter des vocations et de lutter contre la désinformation. C'est Madame Nathalie Ntongo-Osez, directrice du cabinet de la représentante spéciale Bintou Keïta, qui a représenté la MONUSCO. Vous la suivrez dans cette édition. Changement climatique, la COP27 a accouché d'un accord sur les compensations financières au profit des pays vulnérables. Toutefois, les pays pollueurs n'ont pas cédé sur la question relative à la baisse de gaz à effet de serre, telle qu'attendaient les pays en développement. Dans cette édition, vous suivrez également la réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Enfin, nous irons dans la province du Bas-Zuélé avec l'OMS. Le sous-bureau Kisangani de l'Organisation mondiale de la santé attend des autorités locales leur implication dans l'organisation de deux dernières phases de la campagne d'intensification périodique des vaccinations systématiques pour une couverture vaccinale optimale en faveur des enfants dans cette entité. Les détails de tous ces titres dans quelques instants. Merci de votre fidélité à votre émission consacrée aux nouvelles de l'ONU et de ses agences.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche chez vous. C'est avec les élèves du collège Saint-Raphaël à Limité que la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC MONUSCO et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ont célébré la Journée mondiale de l'enfance consacrée le 20 novembre de chaque année. Mais c'est deux jours plus tard que les deux institutions, la MONUSCO et l'UNICEF, ont fait le déplacement de la première rue Limité pour associer à l'événement la communauté scolaire de Saint-Raphaël. Le représentant résident de l'UNICEF était de rendez-vous aux côtés de Madame Nathalie Ndongose, directrice de cabinet de la chef de la MONUSCO Bintou Keïta qu'elle a représentée. Écoutez un extrait des propos de Nathalie Ndongo s'adressant aux élèves du collège Saint-Raphaël.
Pour moi, ce qui est important, c'est de souligner à chacun d'entre vous que MONUSCO, que je représente ici, et également l'UNICEF, nous mettons tout en œuvre pour lutter pour la protection des enfants et des jeunes qui sont douloureusement touchés par le conflit en RDC. Les droits des enfants, comme vous le savez, sont violés chaque jour, notamment les garçons et les filles qui sont recrutés contre leur volonté pour combattre comme enfants soldats. Aucun enfant ne devrait pouvoir endurer l'horrible expérience de la guerre en tant qu'enfant soldat. Et nous ne pouvons pas cesser de lutter pour les droits de ces enfants, pour la protection de ces enfants contre les horreurs de la guerre. Nous savons également que les enfants, et en particulier les filles, sont victimes de violences sexuelles. Et en plus de cela, ils supportent la douleur du déplacement en raison du conflit, en laissant souvent derrière eux leur maison, leur famille, leurs amis, leurs écoles, leurs rêves, pour se retrouver dans la sécurité d'un camp ou dans l'insécurité sur les routes. Encore une fois, aucun enfant ne doit être protégé de ses proches, de sa famille, de son école et des lieux de confort que normalement chaque enfant devrait pouvoir apprécier. Alors, la MONUSCO et toute la famille des Nations Unies, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC pour agir contre les violences sexuelles envers nos enfants et également pour mettre en commun des programmes pour lutter contre ces violences sexuelles. Je pense que c'est un point qui est important à rappeler. Certains parmi vous, parmi nous, sont privilégiés d'être protégés, mais d'autres enfants dans plusieurs parties du pays n'ont pas les mêmes privilèges.
Journée de l'enfant encore et toujours à Kinshasa dans un autre cadre. L'UNICEF a célébré l'événement sous le thème « Promouvoir le droit des enfants pour le sport », coïncidence avec le lancement de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Plusieurs activités sportives ont donc été organisées au quartier GB à Kinshasa pour marquer cette journée de l'enfant. Les ambassadeurs de l'UNICEF, Lokwa Kanza et Céline Banza, y étaient associés, ainsi que les légendes du football, Trésor Loaloa, Joël Kimwaki et l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari. Vanessa Kongolo, reportage.
Pour célébrer cette journée de droit des enfants, des matchs de football et de basketball entre enfants ont été organisés au terrain catalan AGB. Des ballons ont été remis aux enfants par l'UNICEF, l'un d'entre eux témoigne.
Je suis content de l'UNICEF d'avoir remis ce ballon. Ça va m'aider à m'entraîner.
Pascal Lokwa Kanza, ambassadeur UNICEF, a invité les parents à prendre conscience de l'importance de l'éducation des enfants.
Donnons à nos enfants l'occasion de pouvoir apprendre pour le futur parce que ce pays, ou même, je dirais, cet univers où nous sommes, c'est vous qui allez le faire demain.
Le sélectionneur des Léopards A' a réaffirmé son engagement à protéger les enfants contre la pédophilie dans les milieux sportifs. Otis Ngoma.
On veut que nos enfants, nous, qui viennent pratiquer ce sport, ne puissent pas avoir aucun souci dans cette pratique.
Les représentants de l'UNICEF en RDC a quant à lui salué l'engagement de ses ambassadeurs à défendre le droit des enfants. Grant Leity.
L'UNICEF réitère son engagement à appuyer le gouvernement de la RDC pour garantir les droits de chaque enfant congolais et lui donner la possibilité de développer son plein potentiel.
Autre forme de célébration de la journée de l'enfant, le 20 novembre de l'UNICEF encore, c'est cette marche de santé qu'elle a organisée le week-end toujours dans la capitale congolaise. Une marche qui a réuni une cinquantaine d'enfants et d'autres partenaires de l'agence dont la division provinciale du genre, famille et enfants. Le point de départ était la place des évolués et le point de chute, Utex Africa, en passant par le boulevard Tchatchi. Philbert Baloulagué, reportage.
Cette année, l'UNICEF a mis en place une stratégie de communication et de plaidoyer reliant l'organisation, les sport et l'enfance. Jean-Poncien Chibamba, coordonnateur national du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants, explique.
Pour cette année, à l'international, on avait misé de faire la célébration sur l'inclusion pour chaque enfant. Et donc, en RDC, on a travaillé à la promotion du droit de l'enfant à travers le sport. Le slogan qui a été retenu, un enfant, un droit, un sport. C'est là pour pouvoir voir que le sport, c'est pas seulement une gymnastique, mais c'est aussi un droit pour chaque enfant.
Tel un baptême, Consolation Atta a fait sa première marche à pied de quelques kilomètres, elle en sort heureuse.
C'est ma première fois de faire une marche, de faire des kilomètres en train de marcher. Je me sens bien.
Ses autres enfants ont trouvé aussi du plaisir à marcher pour les droits de chaque enfant.
Je suis émue de joie de participer à cette marche pour aider à d'autres enfants d'imaginer un peu la journée du 20 novembre.
C'était bien, on s'est exercé, on s'est un peu fatigué, mais on est en forme.
Un peu fatigué vu qu'on a marché pendant longtemps et qu'il fait chaud. Mais sinon ça va.
Jusqu'au 1er décembre, l'UNICEF prévoit d'autres activités.
Changement climatique. Après de longues et intenses négociations, la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, s'est clôturée dimanche. Le forum s'était tenu en Égypte. Un accord final a été adopté. Il porte sur les compensations financières en rapport avec les dégâts causés par la crise climatique dans les pays vulnérables. L'adoption de ces textes a été qualifiée d'historique par ses promoteurs. Pourtant, les pays pollueurs n'ont pas cédé sur la question relative à la baisse des gaz à effet de serre, là où les attendaient le gouvernement des pays en voie de développement et les ONG. Pele Kipelamondo.
Mieux vaut peu que rien, c'est le moins que l'on puisse dire au vu de la moisson quelque peu moindre récoltée à la COP27 par les pays qui payent les lourds tributs du réchauffement climatique. Si l'accord final souligne les besoins immédiats des ressources financières nouvelles, supplémentaires, prévisibles et adéquates pour aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux impacts économiques et non économiques du changement climatique, il est loin de satisfaire la grande majorité des États qui se sont rendus au pays des pharaons avec des attentes pressantes. S'il se réjouit de cet accord final, le secrétaire général de l'ONU n'hésite cependant pas de les qualifier d'insuffisants. De toute évidence, cela ne suffira pas, mais c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée, affirme Antonio Guterres. Pour sa part, l'Union européenne s'est dit déçue par l'accord de Charles Michel. D'après le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, je le cite, « Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la Terre. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leur réduction d'émissions. Fin de citation. On a gagné la bataille et non la guerre, indique de son côté Alpha Kaloga, l'un des délégués de l'Afrique à la COP27.
Volet santé avec l'OMS, direction le Bazuélé. Le chef du sous-bureau Kisangani de cette agence plaide pour l'implication de l'autorité politico-administrative locale dans l'organisation des deux dernières phases de la campagne d'intensification périodique des vaccinations systématiques dans cette entité. Pour le docteur Kolengia Viko Willibar, l'appui de l'autorité provinciale à ces campagnes permettra la récupération de beaucoup plus d'enfants non atteints lors de la première phase. C'est ce qu'il a dit au vice gouverneur de province Christophe Lemondé lors de sa mission effectuée la semaine dernière dans le Bazuélé. C'est un reportage signé Jacques Moukonkolé.
La pandémie de COVID-19 et la grève des prestataires des soins de santé n'ont pas permis la vaccination régulière des enfants dans le Bazuélé. C'est ce qui justifie l'organisation d'une campagne d'intensification périodique des vaccinations systématiques IPVS par l'OMS en collaboration avec le gouvernement. Pour le docteur Colling Biavico, chef du sous-bureau de l'OMS Kisangani, l'implication de l'autorité locale s'avère nécessaire afin de récupérer davantage les enfants non atteints ou insuffisamment vaccinés.
Nous voulons que l'autorité s'implique dans le sens à mobiliser la communauté. Pour organiser le lancement comme on l'a fait pour la campagne contre la polio, il faut qu'il y ait un lancement public, que les parents qui ont des enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés puissent être sensibilisés et amener ces enfants-là vers les différents sites qu'on a organisés pour cette campagne.
Réagissant à ce plaidoyer, le vice-gouverneur des provinces rassure son interlocuteur de la disponibilité de son gouvernement à faire en sorte que tout se fasse dans la symbiose et l'harmonie afin de préserver la santé des enfants de cette entité.
D'abord, garantir la sécurité de tout personnel de santé, des non-partenaires qui seront avec nous pour réaliser ces deux phases-là. En ce qui concerne le transport des intrants, pour que ces intrants puissent atteindre toutes nos zones de santé, nous allons faciliter la circulation libre de tous les acteurs.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dimanche, le magazine des Nations Unies revient sur la célébration en septembre dernier de la Journée internationale de la démocratie, la 15e de l'histoire de l'ONU. À cette occasion, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Thioye, avait dressé un bilan mitigé de la démocratie en RDC, caractérisé par quelques avancées comme il avait reconnu lui-même. Il avait également parlé des actions que mène son institution pour la promotion de la démocratie au Congo démocratique. Abdulaziz Thioye s'était entretenu avec Jeff Ngoy.
Bonjour Abdulaziz Thioye.
Bonjour.
À l'occasion de la célébration de la 15e année de la Déclaration universelle proclamant la démocratie dans le monde par les Nations Unies, j'ai affaire au directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Que veut dire démocratie?
Comme vous l'avez dit, la journée du 15 septembre est consacrée comme journée internationale de la démocratie. C'est une occasion, je pense, très très importante de s'interroger sur la démocratie et de s'arrêter un moment pour réfléchir et regarder le fonctionnement de nos sociétés qui sont prétendument démocratiques. Donc, parler de la démocratie, il revient à parler de ce que la célèbre phrase d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dire le gouvernement par le peuple souverain qui décide de sa vision, de son système de gouvernement, qui décide de sa vie économique et qui décide également de sa sécurité ainsi que de la gestion de sa vie quotidienne. Donc, vous pouvez comprendre que la démocratie, on la distingue de la monarchie, évidemment, qui est un système basé sur la volonté d'un individu et un système de transmission du pouvoir sur une lignée qui est beaucoup plus dynastique et sans égalité des chances.
À ces jours, peut-on dire qu'il y a eu des avancées positives, des avancées considérables que le BCNDH peut déceler concernant notre système démocratique?
Des avancées, oui. Je pense que si nous en sommes aujourd'hui à discuter ouvertement du respect ou non des droits et libertés, c'est parce qu'évidemment, il y a une liberté d'expression. Donc c'est ça aussi une caractéristique de la démocratie, la liberté de la presse. Depuis 1998, je pense, après les élections qui ont amené l'alternance à la tête de ce pays, il y a eu une ouverture de l'espace politique. Nous avons vu la possibilité de la société civile pour les partis politiques de définitivement pouvoir manifester librement. Il y a eu par la suite des velléités de restriction qui ont refait surface et qui ont fait à un moment donné craindre effectivement d'un retour en arrière. Les craintes sont toujours là. Mais évidemment, on n'est pas à la situation que nous avons connue il y a quelques années, notamment entre 2016 et 2017, où de façon très claire, il y a eu une répression sanglante des manifestations qui étaient organisées sur la voie publique. Pour l'heure, sans trop décerner un satisfecit, on peut dire qu'il y a un bilan plus ou moins mitigé, des avancées qui méritent d'être consolidées et pour d'autres sur des aspects sur lesquels il faut nécessairement faire des progrès.
Planifier une action et renforcer la démocratie, c'est le thème de cette 15e année. Quelles sont les actions que le BCNUDH planifie concernant la promotion de la démocratie?
Nous travaillons beaucoup, nous sommes dans un rôle comme bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, comme vous le savez, est l'entité des Nations Unies en charge de tout ce qui est coopération technique pour accompagner les États à être plus ou moins en conformité avec leurs engagements, pour ratifier une convention. Nous devons vous aider techniquement à mettre en œuvre les dispositions de la convention. Donc, pas seulement les États, il nous faut travailler avec le Parlement. Comme vous le savez, nous travaillons beaucoup avec les autorités qui sont les détenteurs d'obligations. C'est-à-dire, quand l'État ratifie une convention et décide d'accorder les bénéfices des droits reconnus dans la convention à ses citoyens, c'est l'État qui a l'obligation de réaliser cela. Donc, nous sommes du côté de la redevabilité, c'est-à-dire aider l'État à véritablement être à niveau dans la satisfaction de ses obligations et leur mise en œuvre. Nous soutenons également le côté des bénéficiaires, ceux qui détiennent des droits, citoyens, pas les citoyens individuellement, mais à travers les structures qui les représentent. C'est la société civile, dont nous renforcer les capacités de manière à les accompagner, à pouvoir eux-mêmes développer un plaidoyer, un dialogue qui leur permette de s'engager avec les autorités, ce qu'on appelle augmenter les capacités de réclamation.
La 15e année de la proclamation universelle de la démocratie par les Nations Unies coïncide avec la crise de la COVID-19 qui a presque entraîné des défis à l'échelle mondiale, des défis majeurs sur le plan politique, sur le plan social et juridique. Comment peut-on renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises?
Je pense que la COVID-19 nous a pris deux bonnes années. On ne s'en rend pas compte que beaucoup de choses se sont passées. La COVID-19 a favorisé quelque peu une crise du multilatéralisme. Certains États se sont refermés sur eux-mêmes. Les disparités et les inégalités sociales et économiques se sont accentuées, ce qui est aussi un élément non négligeable. Et la COVID-19 aussi a été une occasion pour certains pays, certains régimes, de restreindre davantage les droits et libertés. On l'a vu, et d'ailleurs, la haute commissaire a beaucoup insisté là-dessus pour rappeler à certains États la nécessité de s'abstenir dans le contexte, sous prétexte de lutter contre la pandémie, de restreindre les droits et libertés. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays où les gens étaient confinés, ne pouvaient pas sortir. Les manifestations étaient interdites, certaines activités, beaucoup d'atteintes à la vie privée sous prétexte de confinement. C'est très très compliqué et également une explosion des violences domestiques. Toutes les leçons apprises de la COVID-19, je pense, doivent servir pour faire différemment. C'était donc, et ça nous ramène encore une fois sur l'interdépendance. Un système démocratique est un système aussi qui crée les conditions pour que ses citoyens puissent jouir de tous leurs droits, civils et politiques, mais droits économiques, sociaux et culturels. Et en cela, pour le faire, il faut créer un environnement qui permette une expression libre et démocratique.
Abdulaziz Choy, je vous remercie.
Nous nous faisons plus bref. 200 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que le Fonds monétaire international FMI va encore octroyer à la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre d'un accord conclu avec le gouvernement congolais à la suite de la troisième revue du programme de réforme économique appuyé au titre de la facilité élargie du crédit. Mais cet accord doit être soumis à l'appréciation de la direction du FMI et à l'examen de son conseil d'administration dont la réunion est prévue en décembre 2022. Économie encore, un mot sur la semaine d'industrialisation de l'Union africaine. Le forum s'est tenu à Niamey, au Niger. La troisième journée a été marquée par la réunion de haut niveau sur l'industrialisation inclusive et durable comme moteur de la résilience, de la création d'emplois et de la stabilité du Sahel, ainsi que d'autres pays africains victimes des conflits armés récurrents dans la République démocratique du Congo. La RDC a été représentée à ce forum par son ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Plusieurs partenaires techniques et financiers, ainsi que les gouverneurs du Haut-Katanga et du Haut-Lomami, dans les provinces égorgent certains minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques ont eux aussi pris part au panel. Une nouvelle démographie pour refermer cette page d'une nouvelle en plus bref. La population mondiale a dépassé depuis mardi 15 novembre 2022 le 8 milliards d'habitants selon les estimations de l'ONU. L'Organisation mondiale parle d'une croissance sans précédent de la population planétaire. Elle serait conséquence, d'après elle, à une augmentation progressive de la durée de vie et grâce aux progrès réalisés en santé publique, en nutrition, hygiène ainsi qu'en médecine. Alors que la Terre a compté moins d'un milliard d'habitants jusque dans les années 1800, elle n'a mis que 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards d'individus.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité ce jour, c'est le chargé du programme Eau, Hygiène et Assainissement de l'UNICEF, bureau de Goma, Elhadj Oumar Ba. Il parle des interventions de son agence en faveur des déplacés de guerre dans le site de Kanyaruchinya, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. L'UNICEF et ses partenaires fournissent de l'eau potable à plus de 23 000 personnes chaque jour dans ce site depuis le 30 octobre dernier, en plus d'autres formes d'assistance. Elhadj Oumar Ba répond aux questions de Bernard Danyanki.
Monsieur Oumar Ba, bonjour.
Bonjour.
Il y a déjà plus de deux semaines, depuis que ici à Kanyaruchinya, il y a beaucoup de déplacés qui ont afflué vers ici. Quelles sont les réponses d'abord que vous avez données comme UNICEF par rapport à ça?
Au niveau de l'UNICEF, dès l'arrivée massive le 29 octobre des populations venant de la zone de conflit, donc le même jour, à travers nos partenaires, on est venu faire une évaluation par rapport au secteur eau, hygiène et assainissement. Et le lendemain, le 30, on a commencé à distribuer de l'eau. Nous avons été pratiquement parmi les premiers acteurs à répondre aux besoins en eau, comme on sait que les besoins en eau sont urgents dans une telle situation. Et depuis ce jour, on a continué avec nos partenaires. Au début, on distribuait beaucoup d'eau, mais avec la présence de certains acteurs, aujourd'hui en moyenne, on distribue 113 mètres cubes d'eau par jour pour couvrir les besoins en eau d'environ 23 000 personnes chaque jour. Mais c'est aussi un assainissement dedans, donc on est en train de faire des constructions de latrines et des douches pour assurer l'intimité des utilisateurs et puis la gestion de tout ce qui est excréta au niveau de la zone occupée pour éviter la propagation des maladies hydriques. Donc on a aussi en termes d'hygiène conduit avec nos partenaires des activités de promotion d'hygiène de base et on fait aussi des distributions de kits pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir collecter, transporter et stocker l'eau.
Parler des partenaires, c'est lesquels?
Les partenaires, pour le moment, on a commencé avec AVIDS et avec BIFERD qui sont en train de répondre, mais à ce jour on est en train de finaliser aussi un partenariat avec un autre partenaire qui est Grand Lac, normalement cette semaine, pour renforcer un peu cette réponse.
Vous dites que c'est sur base des évaluations que vous avez faites avant, ici à Kanyaruchinya, mais est-ce que cette même évaluation tient encore, puisque nous voyons qu'il y a encore d'autres arrivées?
Oui, les arrivées continuent de façon progressive, mais aussi il y a des acteurs qui se positionnent, parce qu'au début, c'était pratiquement seulement UNICEF et ses partenaires qui avaient commencé au début, mais après, il y a eu beaucoup d'autres ONG, d'autres agences qui se sont positionnées et qui ont installé des points de distribution d'eau. Donc ça fait que c'est un peu plus harmonisé et ça tient compte de l'arrivée progressive des gens.
Comment vous faites pour vous rassurer que l'eau que vous donnez à ces déplacés est aussi une eau qui est propre?
En fait, on a mis en place un mécanisme depuis le début, c'est de donner des kits à nos partenaires pour vérifier le taux de chlore résiduel. Donc une fois que la citerne arrive sur le site, avant de mettre l'eau dans les bladders, c'est que le partenaire a un point focal qui prend d'abord l'eau et qui vérifie le taux de chlore résiduel qui doit être compris entre 0,3 et 0,8 mg par litre. Maintenant, si on est en deçà de ce standard, donc ils font ce qu'ils appellent le jar test. Techniquement, c'est de voir quelle est la quantité de chlore qu'il faut ajouter pour respecter le standard avant de donner l'eau à la population pour éviter d'avoir un impact sur la santé des consommateurs.
C'est de l'eau qui est tirée du réseau de la Régie des Eaux?
Oui, c'est des stations de pompage de la Régie des Eaux où les gens viennent s'approvisionner. C'est pour ça que l'eau vient déjà chlorée, mais on vérifie parce que le taux de chlore peut être consumé. Ça dépend de la propriété de la cuve, de la citerne et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on vérifie et qu'on s'assure dès que l'eau arrive au niveau d'ici.
Comment vous pouvez évaluer aujourd'hui votre niveau d'intervention? Est-ce que vous avez déjà couvert à 100% les besoins ou bien il y a encore des gaps?
Bon, il y a toujours des gaps parce qu'aujourd'hui, on a le niveau moyen en termes d'urgence. Donc on a les standards, mais en termes de vie continue, ça devrait être rehaussé pour couvrir tous les besoins des déplacés. L'une des difficultés aussi, c'est par rapport à ce camionnage d'eau, le water trucking. C'est que ça a des limites parce que ça coûte très cher. C'est environ 10 000 dollars par jour que les gens financent ici. Et donc sur le long terme, ça risque de peser sur les capacités des partenaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce serait très important de pouvoir identifier des zones où on peut avoir accès à l'eau et où on pouvait mettre un système de potabilisation et de pompage d'eau pour pouvoir répondre de façon très efficace et de façon suffisante aux besoins des gens.
Il y a quelques ménages qui ont déjà bénéficié de kits WASH de l'UNICEF, mais il y en a encore d'autres qui disent qu'ils n'en ont pas encore bénéficié. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça?
Oui, tout à fait. Je pense que va renforcer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des problèmes de mobilisation des ressources financières pour pouvoir répondre efficacement et de façon assez importante aux besoins des populations.
Monsieur Omar, ben merci.
Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, le 22e anniversaire s'est célébré à Bunia en Ituri. Cette résolution porte sur les femmes, la paix et la sécurité. Le vendredi 18 novembre dernier, une quarantaine de femmes et filles du chef-lieu de la province de l'Ituri ayant œuvré dans les différents secteurs sociaux ont été primées par les autorités de la province et la MONUSCO. Ces femmes et ces filles se sont distinguées dans les secteurs du dialogue communautaire, de l'encadrement des enfants ou sensibilisation de groupes armés pour le retour de la paix. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Loki.
Parmi ces femmes figure Georgine Lové, la coordinatrice de l'ONG FADEM, Femmes en action pour le développement multisectoriel. La trentaine révolue, elle a reçu un prix spécial pour avoir joué un rôle dans la libération au mois d'avril 2022 des membres de la Task Force pour la paix envoyée par le chef de l'État. Ils avaient été pris en otage par la milice Codeco avant que ces derniers ne signent l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités dans les territoires de Djougou. Georgine Lové.
Oui, j'ai pris beaucoup de risques, mais j'étais déterminée. Tout ce que nous avons fait, la finalité, on les a accompagnés des accords qui étaient signés ici à Bunia. Moi, en tant que femme, je suis fière de continuer dans cette thématique-là.
Pour la coordination provinciale de la résolution 1325, c'est une manière symbolique de témoigner de la gratitude à l'endroit de ces femmes et filles qui militent pour le retour d'une paix durable dans la région. Jean-Marc Mazio, le secrétaire permanent de cette organisation en Ituri.
En fait, c'est ça la résolution 1325. Donc, on veut que la femme participe, on veut que la femme soit au centre de tout. Dans la recherche de paix, la femme participe aux instances de prise de décision.
À cette occasion, une feuille de route a été élaborée par les participants dans le cadre des actions futures à mener. C'est dans le but de rendre effective cette résolution dans la province de l'Ituri. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Que fait le programme alimentaire mondial au profit des déplacés fuyant la guerre du M23 depuis mars dernier et se trouvant dans le territoire de Niragongo? La question a été posée au chargé de communication de cette agence tunisienne en RDC, Claude Kalinga. C'était au cours de l'émission Dialogue entre Congolais de mardi dernier animée par Kellyn Kouté. Suivez la réponse de Claude Kalinga.
Depuis début novembre, jusqu'aujourd'hui, le PAM est en train d'apporter une assistance d'urgence à ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui sur le site des déplacés de Kanyaruchina et de Munigi. Donc, à ces jours, nous avons pu apporter une assistance alimentaire d'urgence à plus de 91 000 personnes. Donc, le nombre de personnes que nous assistons est en train d'accroître au fil de jour et le PAM est en train de s'activer également d'apporter une assistance à toutes ces personnes qui sont en train d'arriver.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Trois dates sont à retenir pour la première semaine de décembre 2022. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le 2 décembre, journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Enfin, le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Cette émission à retrouver sur le site www.radiokapi.net, Radio Kapi en un seul mot. Merci de votre attention. Merci également à Billy Landé-Bétou qui en a assuré la coordination technique. Je suis Babel Pongomastimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Restez toujours à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.